Et donc sur une présentation assez courte et qui sera sûrement pas complète évidemment, sur ce que j'ai appelé le double effet cocktail des pesticides. Donc le double effet cocktail, bon je vais passer rapidement sur, vous savez évidemment que les pesticides aujourd'hui, malgré ce qu'on en dit, sont largement présents dans l'environnement, répandus par les différentes applications et puis diffusées par la percolation dans les sols, par l'évaporation, le vent et les pluies qui dispersent donc allègrement insecticides, fongicides et autres biocides. Les pluies, lesquelles pluies peuvent aussi retomber évidemment sur les villes, les habitations. Et en plus, donc je reprends cette image de génération future que vous connaissez évidemment et qui travaille beaucoup sur les pesticides et montre à quel point aussi l'usage quotidien est un peu inconsidéré, disons, de tous les toxiques nous concerne, disons, concerne les consommateurs moyens, disons, quand on ne fait pas attention à l'usage au jardin, mais aussi dans la cuisine, dans la salle de bain, l'ensemble des toxiques, pesticides et autres, dont une majorité est donc perturbateurs endocriniens. Et donc évidemment, les faits sont là hein, sur des nouveaux cas de cancer, même si évidemment c'est un peu rapide comme corrélation, les faits sont là et donc on peut s'interroger sur la causalité, même si elle est évidemment un peu plus complexe que ça. Alors là, c'est un schéma qui présente un peu les procédures de mise sur le marché. Le but n'est pas de rentrer dans le détail et de vous expliquer ou réexpliquer comment ça fonctionne. On s'en fiche un peu. Mais j'avais repris ça pour montrer que donc il y a un empilement d'institutions, d'organisations qui s'en mêlent et qui expriment un peu, avalisent des dossiers, des décisions, des expertises. Et donc, on retrouve à l'échelle européenne, donc l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, hein, l'EFSA en français, les sociétés, donc multinationales au sens large, je ne rentre pas dans le détail, mais qui ont évidemment des intérêts. On a beaucoup parlé de lobby et de conflits d'intérêts dans la science en général et dans le dossier des pesticides, vous imaginez évidemment. L'ANSES au niveau national, donc qui est la structure nationale qui valide au niveau national les dossiers formulés, alors qu'à l'échelle européenne, l'EFSA ne travaille que sur les substances actives, donc la matière active qui fait l'effet principal, alors qu'au niveau national, on travaille sur les produits formulés. La Commission européenne, évidemment, intervient pour valider certains dossiers européens. L'OMS s'en mêle, la directive REACH qui s'empile par-dessus, le Codex Alimentarius, dont je reparlerai un peu par la suite, qui est un organe de l'après-guerre qui a dicté quelques normes en agriculture agroalimentaire. Le Centre international de recherche sur les cancers, qui donne aussi ses prérogatives et ses conclusions. Bon, je me suis pas amusé à faire autant de bulles, mais la liste pourrait être longue de structures, d'entités qui ont leur mot à dire, leur légitimité ou pas dans ce dossier des pesticides. Donc l'effet cocktail, il se joue pour moi à deux niveaux, hein, vous l'avez peut-être déjà compris. Dans une procédure d'autorisation donc des matières actives sur le marché, vous avez peut-être suivi les différents travaux de l'équipe de Gilles-Éric Séralini. Ces derniers travaux montrent, si je les résume, que en fait depuis que ces tests ont été normalisés, on travaille avec ce qu'on appelle des faux témoins. C'est-à-dire que les rats qui servent comme organismes test dans les laboratoires pour tester des OGM ou des pesticides, donc les lots qui sont divisés avec un lot témoin, ces mêmes témoins sont nourris avec des croquettes qui viennent des industries classiques d'alimentation animale. Et ces croquettes sont elles-mêmes produites à partir de produits alimentaires qui sont classiquement produits en mode conventionnel et donc dans lesquels on retrouve des résidus de pesticides. Donc en fait, on a pas du tout un témoin, on a des rats qui développent des tumeurs 30%, 40% après 2 mois, 3 mois d'exposition. Donc en fait, c'est des faux témoins. Et quand on compare ces animaux témoins à des animaux qui sont testés avec des nouveaux produits, si on n'obtient pas de différence avec les témoins, vous comprenez qu'on peut conclure que le produit n'a aucun effet sur la santé des rats en tout cas. Et donc la machine passe toute seule. Et donc ça marche comme ça depuis 30 ans. Bon, je vous renvoie vers les travaux, les publications de Séralini, mais grosso modo, c'est comme ça que les tests sont réalisés. En 2012, vous aviez suivi également peut-être la publication qui montrait la présence et le développement de tumeurs très importantes sur des rats aussi, sur une étude long terme. Mais il avait également montré en même temps, et son équipe, hein, je réduis un peu à Séralini, mais c'est toute l'équipe du CRIGène, montrait que les travaux ne portaient que sur la seule matière active. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, le Roundup, pour reprendre son exemple, c'est la matière active, c'est le glyphosate, et il y a 3 ou 4 adjuvants qui sont mélangés au glyphosate pour être dispersés plus rapidement à la surface de la plante, pour pénétrer plus rapidement dans la plante et dans les cellules. Et il montre clairement dans ses travaux, avec le glyphosate et avec une vingtaine, je crois, d'autres produits, que les produits formulés et les adjuvants sont 20 à 1000 fois plus toxiques et plus dangereux que la seule matière active. Or, les tests normalisés depuis 30 ans, encore une fois, sur les pesticides, les médicaments, on a la même démarche, et sur les OGM, sont faits de cette manière. Donc les adjuvants, on a forcément une réglementation très, très permissive, hein, et dans ces adjuvants, encore une fois, on trouve des molécules très, très, très connues en chimie, comme le formaldéhyde, qui sont des produits très, très dangereux, qu'on trouve aussi dans les intérieurs, dans les habitations. Je vous parlais tout à l'heure du codex, c'est un peu le codex notamment donc qui est né de l'après-guerre et qui est né de l'industrie militaire de la guerre, qui a souhaité rebondir un peu, sachant que l'industrie militaire s'effondrait un peu, donc il a fallu pouvoir revendre un peu de la chimie autrement. Donc ils ont fixé un peu des modes opératoires pour fixer les normes des résidus. Et donc ces normes de résidus, elles ont été dictées dans les années 50 par ce codex, donc qui est une structure relativement opaque, un comité très opaque. Et je vous renvoie vers Rima Lebo, qui est une chercheuse américaine qui a énormément travaillé sur cette opacité du codex alimentarius. Je vous renvoie également en français vers cette thèse de Marivonne Lassalle de Salin, qui a travaillé sur le lobbying aussi dans les domaines agricoles agroalimentaires au sein du codex alimentarius. Et donc sous ce nom un peu savant et un peu objectif, on a donc un comité qui est largement infiltré par les sociétés. Et donc la fixation de ces normes sont basées sur un effet de la dose, donc la recette à l'ancienne, qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Or aujourd'hui, on est sur des molécules qui ne sont pas du tout en lien avec, enfin qui sont dont la toxicité n'est pas du tout liée à la dose. Bien sûr, elle est un peu, mais qui est beaucoup plus sur l'effet cumulatif. Et c'est notamment le cas des derniers insecticides et des perturbateurs endocriniens qui sont beaucoup plus toxiques dans un effet accumulatif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout reconsidéré et remis à jour dans ces normes autour des résidus. De la même manière, donc, on parle des effets cocktail dans l'environnement. Donc, dans ces normes qui ont été dictées à l'époque, on ne peut pas du tout prendre en compte l'accumulation des matières actives ou des pesticides dans l'environnement ou dans les organismes vivants. Donc cet effet cocktail, il a été dénoncé depuis 10-15 ans. Donc aujourd'hui, on essaye de travailler un peu sur des modèles ou sur des données biologiques pour essayer de prendre en compte cette accumulation des matières actives. Donc ce schéma, très rapidement, montre que dans les tests classiques, si vous avez trois produits différents, quand ils sont pris séparément, on a des toxicités qui peuvent être peut-être en deçà d'une norme de dangerosité. La norme classique, c'est de cumuler les différents produits et leur dangerosité et d'éventuellement évaluer un effet toxique. Mais pour la majorité des produits, et notamment des perturbateurs endocriniens, il y a des effets très probables de synergisation des molécules et donc d'effets dédoublés, démultipliés de la toxicité. Sur, encore une fois, soit sur l'environnement, soit sur les différents organismes vivants. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas du tout été pris en compte à l'époque et dont personne aujourd'hui ne peut prétendre, pouvoir modéliser ou prévoir cet effet cocktail. On a donc, comme ça a été largement redit, différentes organisations avec des expertises largement infiltrées et ce qu'on a appelé les marchands de doute pour le climat, pour le tabac, c'est quelque chose qu'on retrouve exactement de la même manière dans le milieu des pesticides. Aujourd'hui, on est encore sur, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais un peu redire ce qui est écrit. On a encore un flou dans la juridiction autour des perturbateurs endocriniens. Il y a une vraie bataille juridique pour définir un perturbateur endocrinien. Et les entreprises, les gens qui ont intérêt à garder cette catégorie à part, disons, enfin, les sociétés qui développent ce type de produit ont tout intérêt à garder une définition qui ne se distingue pas trop des pesticides classiques, alors que le mode de fonctionnement, le mode d'accumulation et le mode d'effet sur la santé, sur le cerveau sont largement différents et potentiellement dangereux. Donc je vous renvoie là-dessus vers les travaux notamment d'André Sicolella. De la même manière, souvent donc les agriculteurs ou les structures communiquent autour des analyses de résidus qui sont souvent qui respectent les normes. Donc comme je vous ai dit, les normes, il faut aussi voir comment elles ont été conçues et à quel point elles peuvent être vues comme subjectives. Aujourd'hui, elles sont faites donc sur la seule matière active, c'est-à-dire que si vous prenez des produits agricoles, vous allez chercher les pesticides sur lesquels vous pensez qui ont été appliqués sur la culture. Il peut y avoir énormément de résidus d'autres cultures éventuellement voisines ou qui ont été ramenées par des eaux de pluie, mais il peut aussi y avoir des résidus de ce qu'on appelle les métabolites, donc les produits de dégradation. Un pesticide, évidemment, se dégrade à différentes vitesses, mais il peut y avoir des produits de dégradation qui peuvent être plus toxiques pour la santé, pour l'environnement. C'est le cas ici du DDT, qui est un exemple assez connu et assez classique, qui se dégrade en DDE. Et c'est vrai que dans les années 70-80, on montrait que le DDT, qui était très, très décrié, n'était plus trouvé dans les produits, les poissons et dans la chaîne alimentaire. Or, on ne cherchait pas forcément le DDE, qui a une toxicité 2 à 3 fois plus élevée que le DDT. Alors, bon, moi je travaille en agriculture biologique et on nous met aussi un peu des bâtons dans les pieds, forcément. On essaye de trouver des produits un peu alternatifs et puis on se rend compte que pour les produits naturels, on a une réglementation aussi contraignante. Alors, est-ce que c'est un travail de SAP et de lobby des gens qu'on a en face de nous? Mais bon, voilà, c'est surtout l'Institut technique de l'agriculture bio qui travaille un peu sur cette homologation, autorisation de ce qu'on appelle des substances de base. Je parle de produits comme du sel, du sucre, du vinaigre, de l'argile, et c'est des produits pour lesquels on a des refus de l'Agence européenne de la sécurité alimentaire parce qu'il y a des risques potentiels d'utiliser ces produits-là, vous imaginez, des produits alimentaires qu'on propose de mettre sur les cultures qui ont des effets partiels, évidemment, on n'est pas sur les mêmes effets que des insecticides de synthèse, mais voilà, l'EFSA a ses protocoles et donc nous oppose des refus sur des produits comme du vinaigre ou de l'argile, ou des prêles ou des armoises, etc., donc des produits dont vous avez entendu parler. Voilà, donc c'est le deuxième effet cocktail, c'est cet empilement d'institutions là qui se croisent, s'entrecroisent, et sans verser dans la théorie du complot, on se demande en fait quelle est la responsabilité finale pour cette mise sur le marché de pesticides et toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est une irresponsabilité organisée, hein, comme Bertrand en a parlé, enfin, c'est vrai qu'on est plus tenté de parler d'irresponsabilité que de responsabilité. Et finalement, est-ce que cet empilement de structures ne donne pas une robustesse qui est souhaitée ou pas par toutes ces structures? Mais c'est vrai qu'on ne sait pas par où attaquer, sur quel argument attaquer et quelle organisation attaquer, entre guillemets, quoi, critiquer. Et finalement, bah, c'est comme ça que le système perdure depuis un moment et on ne sait pas bien comment le déstabiliser, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est ma vision du double effet cocktail autour des pesticides. Merci.